Santé.
C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro pour cette dernière semaine de l'émission « C'est bon pour la santé » sur les ondes de Canal M. Alors aujourd'hui, on se demande comment mettre sa vue, ses yeux au service des personnes qui ont une limitation visuelle. Ben, ça peut se faire et ce, tout simplement par l'intermédiaire de votre téléphone intelligent. C'est ce que propose l'application danoise Be My Eyes, mise en ligne au début du mois de janvier. Et tout ça en mettant en relation des volontaires qui sont voyants et des personnes malvoyantes ou non-voyantes qui peuvent avoir besoin d'un petit peu d'aide, que ce soit pour lire, pour obtenir une information, pour trouver leur chemin. En fait, pour être simple, qui ont besoin d'une paire de yeux. Donc, en deuxième partie d'émission, pour nous en parler davantage, Sienna Trigiani, elle, utilisatrice de l'application, elle est elle-même non-voyante, et puis Diane Pilote, opticienne, présidente du conseil d'administration de Vues et Voix. Et puis, le Québec, hein, rien de nouveau. Hein. Le Québec, c'est l'une des sociétés dans le monde où le vieillissement de la population est le plus marqué, où ça va le plus vite, hein, tout juste après le Japon. Et évidemment, ça peut-être que l'on s'en rend moins compte, mais ça modifie, ça transforme tout le paysage démographique de la province. Juste des petits chiffres qui sont bien, bien parlants. En 2006, 14 % de la population avait 65 ans et plus. En 2030, ce sera 27 % de la population. La question que l'on pose aujourd'hui, dans quelles conditions nos aînés vieillissent et comment on peut créer des environnements qui leur permettent de continuer à mener une vie active, à être en sécurité, à continuer à être en santé. Également, la démarche Municipalité Amis des aînés propose des façons d'adapter les milieux de vie aux besoins des personnes aînées. Et j'en parle à l'instant avec Suzanne Garon, professeure titulaire à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, chercheure principale du projet VADA Québec. Suzanne Garon, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien. Et vous?
Oui, ça va bien. Ce qui fait aussi nuageux à Sherbrooke qu'à Montréal.
Absolument, oui.
On s'en sort pas. Suzanne Garon, vous travaillez depuis plusieurs années avec votre équipe de chercheurs sur ce projet Municipalité Amis des aînés. Comment ça s'est amorcé, ce projet-là, et ça part de quel constat?
Ça part d'un constat qui a été fait par l'Organisation mondiale de la santé. Entre autres, je dirais, là, le coup d'envoi a été fait en 2005 dans le cadre d'une conférence sur le vieillissement qui avait lieu à Rio. Mm-hmm. Et plusieurs pays se sont dit que ce vieillissement de la population était un véritable défi.
Ouais.
Autant pour les pays du Nord que pour les pays du Sud, dans la mesure où les pays en voie de développement, on oublie de le dire, mais ils vieillissent beaucoup, et pas aussi vite que le Québec, mais quand même, c'est la première fois dans leur histoire qu'ils vivent avec un contingent de personnes âgées aussi élevé. Donc, mm-hmm. Ils se sont dit, peut-être que si on pouvait trouver une façon d'améliorer les environnements bâtis et sociaux pour aplanir ces différences-là, ça faciliterait ce passage au vieillissement.
Mm-hmm.
Donc, ça a été le lancement, l'idée de travailler sur les villes amies des aînés.
Donc, ça, c'est l'origine de la démarche.
C'est ça.
Il y a différents objectifs maintenant.
C'est ça. Le Québec a été, en fait, la ville de Sherbrooke avait été, dès le début, interpellée parce qu'on avait un centre de recherche sur le vieillissement. Donc, il y a 33 villes dans le monde qui ont participé à la première démarche de l'OMS, dont Sherbrooke et l'équipe de recherche avec moi j'étais au départ avec Marie Beaulieu. Et là, on a participé à ça. On est resté après coup et on a eu l'opportunité d'expliquer ce qui avait été fait par l'OMS dans le cadre d'une commission d'enquête sur les conditions de vie des aînés que Mme Blais avait lancée. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un intérêt qui a été lancé pour les villes amies des aînés. Donc, j'y participe maintenant depuis 2008 au Québec.
Et ce qui est intéressant à savoir, et ça fait un petit peu un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, de se préoccuper, oui, du vieillissement de la population au Québec, mais ailleurs dans le monde, il y a 33 villes qui s'intéressent aux municipalités amies des aînés.
En fait, dans le monde, dans la première recherche, maintenant, il y a plusieurs centaines de villes.
Ah oui, OK.
Au Québec seulement, il y en a 700 qui font le processus. C'est un long processus. Hein. C'est pas un processus qui se règle en
24 heures, là.
En 24 heures. Et après avoir fait un premier coup de roue, on peut refaire un deuxième coup de roue aussi. Alors, le premier processus consiste à faire ce qu'on appelle un diagnostic social. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on a dans notre ville, c'est quoi les statistiques concernant le vieillissement dans notre ville? Où sont les personnes âgées? Ça, c'est pour... ensuite, quels sont les services disponibles? Et puis, on fait aussi une troisième étape de tout ça, c'est on fait une consultation publique auprès des aînés, ouais. Puis qui nous parle de comment ils vivent dans cette ville-là en fonction de différentes thématiques, à savoir l'habitation, à savoir les espaces extérieurs, à savoir la communication avec la ville, à savoir le transport et ainsi de suite. Donc, il y a comme 8 grandes thématiques qui sont au centre de ce questionnement-là. Et les aînés informent de comment ils vivent et proposent aussi des solutions à certains égards, parce qu'on leur demande aussi s'ils peuvent voir des solutions à certains égards.
Et je pense que ça distingue beaucoup la démarche de municipalité amie des aînés. C'est vraiment cette inclusion-là des personnes aînées au processus. On leur demande toujours leur avis.
Oui, oui. Puis à cet égard, vous avez totalement raison. Je vous remercie de le souligner. Dès la consultation, mais aussi dans un comité de pilotage qui met en place où il y a des représentants aînés qui doivent participer autant avec des conseillers municipaux, des gens qui travaillent dans les villes en termes d'administration municipale ou d'autres types d'organisations comme C3S, par exemple. Mm-hmm. Donc oui, il y a des aînés qui sont présents dans la démarche, tout au long de la démarche.
Suzanne Garon, quelles sont les conséquences pour les personnes vieillissantes d'une municipalité, d'un village, d'une MRC qui ne serait pas sensible à ça, qui ne serait peut-être pas adaptée à leurs besoins?
Bien, ça crée beaucoup d'isolement social. C'est une des caractéristiques des pays ou des régions ou des villes qui se ferment à un vieillissement actif. C'est une forme d'exclusion sociale qui est vécue par les personnes âgées. On ne parle jamais d'eux, on ne fait rien pour eux, ils sont perçus comme un poids. On ne valorise pas le travail qu'ils font, qui est souvent un travail invisible et extraordinaire. On fait vivre de l'isolement social et ça, c'est dramatique parce que, vous savez, comme moi, d'ailleurs, dans votre ouverture, vous parlez de l'importance de participer socialement, de participer physiquement, mais de participer aussi socialement, parce que c'est une fontaine de jouvence quand on se sent utile, quand on sent qu'on est dans un monde dans lequel on fait partie, on donne un coup de main, ben ça nous tient en vie, ça nous tient tout jeune, et ça, c'est fondamental.
Et bon, vous parlez, ça nous maintient en vie, maintient tout jeune, ça nous maintient en santé également.
Oui,
c'est
oui,
quoi
oui.
Les impacts ou les bienfaits de l'initiative MADA, donc Municipalité Amie des aînés, chez les personnes aînées, donc les bienfaits pour leur santé?
Quand on parle à des personnes âgées qui ont vécu la démarche ou qui vivent dans une ville qui place le vieillissement non pas juste comme une lourdeur, mais aussi comme un défi important auquel il faut vraiment s'adresser puis amener des solutions, ce qu'on se fait dire, c'est qu'on n'est pas perçu juste comme des poids morts, on est perçu comme des gens qui avaient une citoyenneté active. Donc, c'est ces éléments-là. Et des fois, c'est des petits détails. Hein. Je dis souvent que les villes des aînés, des fois, c'est par des petits détails qu'on fait la différence. Je me souviens d'une ville où on avait consulté les aînés concernant les bancs de parc qui étaient mal placés. Et les aînés disaient ils sont mal placés, on ne voit pas les plus beaux. Ils sont placés de l'intérieur, on ne voit pas l'extérieur qui donne sur un cours d'eau magnifique. Mm-hmm. Alors, dans la semaine qui avait suivi, la ville avait eu vent de ça, avait mis deux bancs sur le côté extérieur et les aînés disaient « Hey, on a du pouvoir, on n'est pas juste... » Tu sais, des petits détails font une grande différence souvent.
Oui, et ça permet un petit peu que les personnes aînées sortent à l'extérieur parce qu'aller marcher, être actif, et on le sait de plus en plus, les études vont appuyer ça. Un aîné actif est un aîné en santé, bien souvent, plus souvent qu'autrement. Mais si l'habitat, l'environnement n'est pas adapté à l'activité physique, ben là, on n'y accède pas finalement.
Oui, excusez-moi, je suis dans un centre de recherche, mais là, il y a toute une cour.
Il y a les chercheurs en arrière qui vous écoutent.
Ça arrive pas souvent, mais... oui, c'est ça. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît?
En fait, ce que je disais, c'est que les études tentent et réaffirment que l'activité physique a de réels bienfaits pour les personnes aînées.
Absolument.
Sauf que si l'environnement n'est pas adapté, ben...
C'est ça. Être actif peut... Oui, être actif, c'est très important. Et avoir un réseau social... L'activité physique est importante, mais on est d'ailleurs, il y a des études dernièrement, je viens de voir. On ne sait pas si c'est juste l'activité physique ou le réseau social qui est important. Les deux s'ajoutent. Là. Il y a vraiment. On est des animaux sociaux, donc on a besoin d'être en société, on a besoin d'être avec d'autres et de sentir utile. Donc, souvent, le club de marche est aussi un club d'entraide et ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, oui, c'est fondamental et oui, c'est ce qui fait la différence aussi avec un vieillissement en santé. Là.
Oui.
On vieillit beaucoup mieux au Québec qu'on vivait à une certaine époque parce qu'on a des saines habitudes de vie, on est plus conscient de comment on vieillit. Là.
Et pour favoriser un vieillissement actif, Municipalité Amis des aînés a différents facteurs. Vous avez en fait un petit peu, trois niveaux, santé, sécurité, participation.
Exactement. Alors, c'est bien difficile de participer si il n'y a pas de sécurité. Alors, si on est dans une société qui est une société éprise avec des conflits, avec la guerre ou avec de l'insécurité, ne serait-ce que de la violence, les gens vont rester chez eux, vont être isolés, ils vont moins bien vieillir. Alors, la sécurité peut prendre plusieurs façons, plusieurs visages. Ça peut être aussi juste la capacité de mettre de la lumière
bien
sur certaines rues, nettoyer les trottoirs pour que les gens puissent sortir, qu'ils ne soient pas obligés de jouer avec leur vie pour aller marcher jusqu'au coin de la rue, pour aller faire l'épicerie, quand ils ont encore des commerces de proximité. Mais tout ça fait que c'est important, la sécurité, pour être actif, pour rester en santé.
Mm-hmm.
Et donc, il y a vraiment une roue qui tourne dans le vieillissement actif. C'est un très beau concept mis en place par l'Organisation mondiale de la santé qui émerge aussi des travaux du Dr. Walker, un gérontologue de l'Angleterre, des années 90 déjà. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que ce cycle-là est fondamental.
Santé, sécurité, participation, vraiment, le lien est assez évident à faire quand on y réfléchit. On se rend compte que tout ça est très, très interrelié.
C'est ça. Puis c'est quand on le voit dans les limites, quand on vieillit, on voit que nos forces se réduisent un peu, se réduisent. Donc c'est là où on voit l'importance de ce cycle-là, parce que plus on arrête des fois de bouger à un certain âge parce qu'on a peur de tomber, on n'est pas sécurisé par rapport à l'environnement bâti. Et c'est dommage parce que on devrait avoir tout le monde le droit de bouger, de sortir, de socialiser. Et c'est ça que ça permet, cette réflexion sur le vieillissement au Québec. Et ça amène les villes à réfléchir sur cet espace public qui est la ville.
Mais
c'est une très bonne chose, à mon avis.
Et ça, c'est intéressant. Je veux vous amener là-dessus, cette réflexion-là qui a été ou qui sera amorcée par les municipalités du Québec. Est-ce qu'il y a des initiatives très marquantes dans nos villes ici on pourrait en parler peut-être aujourd'hui, Suzanne Garon, pour peut-être un petit peu illustrer cette initiative?
Il y a beaucoup, beaucoup de petits gestes qui sont faits. Il y a des municipalités, par exemple, qui vont laisser plus la possibilité aux personnes âgées de participer à la vie citoyenne. On va les questionner, on va leur laisser une place aussi pour qu'ils puissent influencer des politiques publiques à l'intérieur là, de ce que la municipalité veut mettre en place. Là. Il y a aussi de plus en plus des organismes d'aînés qui prennent la parole pour les aînés. Des fois, ça peut être des petits gestes aussi sur, comme je vous parlais, des bancs tout à l'heure, ou encore des formes d'habitation. Au Québec, on est comme souvent, notre tête est faite sur trois types d'habitation. Tu habites seul chez vous ou avec ton conjoint très longtemps. Après, l'alternative, c'est les résidences pour aînés de type privé. Puis après, c'est CHSLD. Alors qu'il y a une panoplie d'exemples possibles. Et de plus en plus, on voit des petites municipalités s'intéresser à des coopératives de solidarité. Je pense ici en Estrie, à la coopérative La Brunante, qui ont mis en place dans la petite municipalité de Racine, cette coopérative-là qui transforme la communauté dans la mesure où il y a de l'intergénérationnel qui se fait avec l'école, qui est à côté, il y a une salle de rencontres citoyennes dans la coopérative où les aînés peuvent participer à un CA beaucoup plus longtemps. Donc, le vieillissement peut devenir une opportunité si on y pense comme il faut. Je pense aussi à la ville de Ville-Marie dans le Témiscamingue, oui. Mm-hmm. qui ont développé des types d'habitations pour aînés et qui sont devenus une façon de maintenir leurs aînés chez eux, mais aussi un employeur important pour la région. Donc, il faut ouvrir notre esprit puis penser différemment et autrement pour qu'on puisse trouver des solutions qui sont valables pour tout le monde, hein, parce que ce qui se fait pour un aîné, c'est pour tout le monde aussi, là.
En terminant, Suzanne Garon, si certains élus, certains décideurs nous écoutent en ce moment, comment une municipalité, une ville peut devenir une municipalité amie des aînés?
Cette demande-là peut être faite au secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec, qui donne une petite subvention pour participer au moins à la première étape, qui consiste à faire les trois étapes dont je vous parlais tout à l'heure, un diagnostic social, pour faire un plan d'action. Et dans ce plan d'action-là aussi, il y a une mise en œuvre qui doit être faite avec le temps et qui peut être aussi facilitée par des subventions spécifiques aux villes qui font la démarche Ville amie des aînés. Je pense à un programme du gouvernement du Québec qui s'appelle le PIQM, qui permet de pouvoir mettre en place des petites infrastructures municipales pour faciliter la participation sociale des aînés. Et donc, oui, il y a plusieurs... La première chose à faire, c'est vraiment d'aller sur le site du secrétariat aux aînés et de s'inscrire. Mais en plus, je pense qu'il y a toute une... Il commence à y avoir vraiment une communauté de villes amies des aînés au Québec. On peut... Sur le site Internet de l'équipe de recherche, on peut voir aussi plusieurs expériences concrètes. Là, je vous invite à y aller. Ça s'appelle www.madaquebec.ca. Et là, vous allez pouvoir voir tous les...
Il y a des guides, en fait.
Oui, on a mis un guide en place, un guide qui a été repris par plusieurs pays, je dirais même copié, retraduit et tout. Oui. On travaille, notre équipe de recherche travaille très, très, très proche de l'Organisation mondiale de la santé. Je fais partie de l'équipe Ville amie des aînés à l'Organisation mondiale de la santé.
Et maintenant, il n'y aurait plus d'excuses pour ne pas être une municipalité amie des aînés.
Oui, c'est un processus qui prend son temps. Là, faut changer notre... Il faut avoir des réflexes aînés. Il faut commencer à avoir des réflexes aînés. Mais c'est vraiment, vraiment... Quand ça se fait, c'est vraiment pour le bénéfice de tout le monde. Entre autres, d'une vie citoyenne plus gagnante pour tout le monde.
Plus active, plus enrichie, plus riche, en fait. Parce que si les citoyens plus âgés sont actifs, c'est au bénéfice des autres, des enfants, des adultes d'âge plus actif. Donc, tout le monde y gagne, en fait.
Tout à fait. Puis on ne pourrait pas se passer du travail bénévole que ce que font les aînés au Québec. Là, c'est des milliards de dollars là, en termes de contributions, si on le finançait de manière comptable, mais ça cacherait tout le côté humain qu'il y a derrière ça aussi. Là.
Oui. Suzanne Garon, je rappelle, vous êtes professeure titulaire à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et chercheure principale du projet VADAC Québec. Vous étiez là pour nous parler des municipalités amies des aînés. Merci beaucoup. Bon été, Madame Garon.
Bon été. Merci pour tout. Hein.
Au revoir. Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Eh bien, le plaisir est bien amorcé ici en studio. Diane Pilote, bonjour. Je rappelle, vous êtes opticienne, également présidente du conseil d'administration de Vues et Voix. Vous m'avez demandé de vous tutoyer. Je ne peux résister à cette demande. On se connaît, bien sûr. Tiana Trigiani, vous êtes du côté d'Hamilton. Bonjour. Sienna, vous n'êtes pas là? Ah bon, ben Sienna, on va la joindre. Mathieu, la contacterait du côté de Hamilton. Ben Diane, on va commencer avec vous, puis quand Diane sera là, quand Sienna sera là, on pourra la mettre en contact et vous la présenter. L'application Be My Eyes, c'est une initiative danoise. Ça a été lancé par quelqu'un qui est lui-même non-voyant. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la machine. On se rend compte que la machine ne peut pas remplacer l'intervention humaine un petit peu parce que c'est vraiment de se servir des yeux d'une personne qui peut voir pour aider quelqu'un qui n'a pas ses yeux parce qu'il est malvoyant ou qui a une limitation visuelle, finalement. De quelle façon, vous avez réussi à contribuer à cette application-là, Diane?
Bien, bonjour, Marianne.
Bonjour.
Oui, mais je crois que j'ai croisé cette application-là sur un fil Twitter, mais je ne suis pas certaine. Et pour moi, Be My Eyes... Ma compréhension du monde des non-voyants, ça fait quand même 30 ans que je suis ici, mais c'est qu'ils ont quand même un réseau proche d'aidants, que ce soit la famille, les enfants ou le conjoint. Mais pour moi, Be My Eyes, c'est un espèce de deuxième réseau.
Une famille, un petit peu.
Une banlieue, voilà. Un réseau de banlieue qui va pallier justement aux besoins ponctuels d'un non-voyant qui est coincé. Qui a des questions, qui ne voit pas quelque chose et qui n'a pas son réseau habituel pour l'aider.
Sienna Trigiani, vous êtes là. Bonjour.
Bonjour, Marianne.
On vous joint du côté de Hamilton. Sienna, vous utilisez l'application Be My Eyes?
Oui, je l'utilise depuis le mois d'avril. Donc, ça fait à peu près un mois que j'utilise Be My Eyes.
Et vous l'utilisez dans quel objectif, Sienna?
Alors, je l'utilise surtout pour identifier, par exemple, pour lire les étiquettes. Je demande à la personne qui prête ses yeux de me lire des étiquettes ou le nom ou la date d'expiration sur un paquet ou sur une boîte. Je peux l'utiliser aussi pour savoir la couleur d'un manteau ou n'importe quel objet. Alors, il y a plusieurs possibilités.
Diane, toi, tu as déjà aidé à retrouver un chat dans un appartement.
Oui, j'ai eu un téléphone un peu de panique. La personne pleurait et elle m'a dit « I lost my cat and the door was open ». Donc, elle avait perdu son chat puis elle me disait que la porte de son appartement ou le condo, je ne sais pas trop, était restée ouverte. Et elle ne trouvait plus son chat. Elle était convaincue qu'il était à l'extérieur. Donc, elle a promené son cellulaire dans la maison jusqu'à ce que je vois deux petites taches rouges, deux petits yeux éclairés par la lumière de son cellulaire. Il était sous son lit et il se gardait bien de répondre. Donc, elle a été tellement soulagée quand elle a trouvé son chat qu'il n'avait pas quitté la maison, finalement.
Bien sûr, c'est une application qui est gratuite et on la retrouve. C'est intéressant que ce que tu dis, Diane, bon... Tu peux l'utiliser en anglais, en français, mais dans diverses langues également. 80 000 bénévoles, 6 000 malvoyants qui l'utilisent. Les chiffres ne sont pas récents.
On a 20 000 non-voyants.
20 000 non-voyants.
230 000 voyants qui veulent aider et il y a eu 83 000 aides.
Donc, OK, ça a gonflé un petit peu depuis la fin janvier. C'est énorme. On se rend compte qu'il y a un besoin. Comment ça fonctionne un petit peu? Sienna, peut-être vous pouvez nous raconter, quand vous avez besoin d'aide, comment vous fonctionnez avec votre application?
Alors, il suffit de cliquer sur « se connecter à la première personne disponible » ou si vous utilisez la version anglaise, ce sera « Connect to First Available Helper ». Et ça va lancer un appel vidéo et puis lorsque le bénévole répond, on peut lui poser des questions spécifiques. Et ce qui est génial, c'est que la personne qui prête ses yeux va vous indiquer comment bien positionner la caméra, ce qui, pour moi, j'ai de la difficulté à bien positionner la caméra. Donc, la personne qui prête ses yeux va me dire comment la positionner pour qu'elle puisse mieux voir l'objet. Et puis, je peux demander les renseignements spécifiques.
Et de notre côté, ben, on a un téléphone de Be My Eyes. On va avoir un appel et on répond le plus rapidement possible. Mais je vous dirais, une fois sur quatre ou même trois fois sur quatre, la connexion ne se fait pas. Ça veut dire qu'ils envoient à plusieurs personnes en même temps l'appel et c'est celui qui va le prendre le plus rapidement. Et à l'inscription, c'est, on doit indiquer les langues, les langues disponibles. Donc, moi, j'ai mis anglais et français. Donc, quelqu'un qui parle plusieurs langues va pouvoir être contacté par des bénévoles d'un peu partout dans le monde, par des non-voyants d'un peu partout.
Moi aussi, j'utilise l'application en anglais et en français.
Et pas en italien, Sienna?
Pas en italien. Je me débrouille en italien, mais je ne parle pas assez bien pour, pour utiliser l'application.
Sienna, qu'est-ce que ça a changé pour vous, l'application Be My Eyes?
Ça me procure une grande satisfaction, un énorme plaisir de savoir que je peux avoir de l'aide à n'importe quel moment, même s'il n'y a aucune personne voyante à côté de moi pour m'aider. Je peux toujours utiliser l'application et avoir de l'aide, même à distance. C'est vraiment génial.
Ça amène une sécurité à quelque part.
Mais c'est en fait, c'est très sécuritaire dans le sens où c'est anonyme et on n'a pas besoin de donner notre nom. Et aussi, ce qui est important de savoir, ben, si j'ai bien compris, la personne qui prête ses yeux ne voit pas son interlocuteur puisque elle n'a accès qu'à la caméra arrière.
Vous confirmez ça?
Oui, on n'a pas accès à l'internet, à moins qu'ils veuillent bien se montrer au téléphone. Et pour rassurer aussi, j'ai eu un appel qui était un faux appel. C'était clair pour moi que ce n'était pas un non-voyant. C'était des jeunes qui se montraient avec leur téléphone et qui avaient l'air à s'amuser. Mais quand on a terminé l'appel comme aidant, on a à envoyer un rapport. À chaque appel, on a envoyé un rapport à Be My Eyes. Donc, à cet appel-là, bien, j'ai demandé de bloquer cette personne-là qui était manifestement pas un non-voyant.
En terminant, il reste peu de temps, une minute. Tout à l'heure, je parlais de famille. Diane, à un moment donné, tu as aidé une dame à lire une lettre parce que habituellement c'est sa fille qui le fait pour elle, mais elle était à l'extérieur. Donc, vraiment, on remplace les membres de la famille et ça crée vraiment un beau réseau international là, pour aider les gens qui vivent avec une limitation visuelle. Sienna Trigiani, je rappelle, vous êtes utilisatrice de l'application. Vous êtes du côté de Hamilton. Merci beaucoup de nous avoir parlé de l'application Be My Eyes aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci, Diane, Sienna.
Diane Pilote, vous êtes opticienne, présidente du conseil d'administration de Vues et Voix. Merci pour cette saucette en studio. Toujours un plaisir de vous recevoir, Diane. Mathieu Tessier à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On tient vraiment des comptes. Hein. C'était la cinquième avant la fin. Il en reste quatre. On se donne rendez-vous, nous, demain, 14h. Portez-vous bien. Bye-bye.